Alors, quel roman, quel auteur ou quelle autrice aujourd'hui dans notre première rubrique?
Eh bien, il s'agit de L'art de perdre, de Alice Zéniter, paru en 2017 aux éditions Flammarion et dans la collection J'ai lu pour l'édition des Deux Poches. Ce roman est une autobiographie fictive dans laquelle la narratrice, Naïma, essaie de reconstituer ses origines algériennes et son identité franco-algérienne. Résumé, Naïma, confrontée à ses origines algériennes, découvre son histoire familiale depuis un grand-père harki, puis un père arrivé enfant en France en 1962 et marqué par un passage dans les camps de transit. Elle raconte ainsi le destin entre France et Algérie d'une famille prisonnière comme tant d'autres d'un lourd passé.
Le roman s'inscrit donc parfaitement dans cette littérature de dénonciation des conséquences individuelles et collectives du drame de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Comment ce roman a-t-il été accueilli?
Bien, le livre a connu un grand succès à la fois critique, en étant couronné par de nombreux prix, dont le plus significatif peut être le Goncourt des lycéens, mais aussi public. Ainsi, le roman est resté pendant 2 années consécutivement dans les 15 meilleures ventes d'ouvrages francophones, ce qui est extrêmement rare.
Comment expliquer ce succès malgré un genre littéraire et un thème longtemps enfoui dans notre histoire contemporaine?
Sûrement parce que Alice Zéniter a su écrire à partir de la saga familiale une histoire commune à tant de gens. Le roman touche au cœur de l'histoire collective, celle de la colonisation de l'Algérie et de ses conséquences mortifères, la guerre d'indépendance, ainsi que la place laissée dans la métropole à celles et ceux qui quittent l'Algérie pour la rejoindre, de gré ou contraint, qu'ils soient français ou algériens. Il parle aussi à l'histoire personnelle, celle de chacun et chacune, et ils sont innombrables, qui ont un rapport familial avec la période de l'Algérie dite française. De plus, il s'inscrit directement dans la réalité d'aujourd'hui, celle du sort réservé aux générations successives d'après l'indépendance.
Extrait 1. Soldat de l'armée française. Dans les années 1930, Ali n'est qu'un adolescent pauvre de Kabylie. À l'instar de beaucoup des garçons de son village, il hésite à se casser le dos sur les parcelles de sa famille, minuscules et sèches comme le sable, à occuper ses bras en travaillant les terres des colons ou d'un paysan plus riche que lui, ou bien à descendre en ville, à Palestro, travailler comme main-d'œuvre. Aux mines de Boumédrane, il a essayé, ils n'ont pas voulu de lui. Il paraît que le vieux Frankaoui, à qui il a parlé, a perdu son père dans la révolte de 1871 et qu'il ne veut pas d'indigènes autour de lui. À défaut d'avoir un métier stable, Ali fait un peu de tout, il est une sorte de paysan ambulant, de paysan volant. Et l'argent qu'il rapporte, joint à celui que gagne son père, parvient à nourrir la famille. Ali réussit même à amasser le petit pécule nécessaire pour se marier. Quand il a 19 ans, il épouse une de ses cousines, une adolescente au beau visage mélancolique. Cette union lui donne 2 filles. C'est bien dommage, commente sévèrement la famille, au chevet de l'accouchée qui en meurt de honte. La maison où il n'y a plus de mère, dit le proverbe kabyle, même quand la lampe est allumée, il y fait nuit. Le jeune Ali supporte la nuit comme il supporte la pauvreté, en se disant que c'est écrit, et que pour Dieu qui voit tout, cette existence a un sens supérieur aux fragments de chagrin qu'elle ne cesse d'apporter. Au début des années 1940, le fragile équilibre économique du foyer s'écroule lorsque le père d'Ali meurt d'une chute dans les rochers en tentant de rattraper une chèvre fugueuse. Ali s'engage alors dans l'armée française, qui renaît de ses cendres et se mêle au bataillon des Alliés, lancé à la reconquête de l'Europe. Il a 22 ans, il laisse sa mère s'occuper de ses frères et sœurs, ainsi que de ses 2 petites filles. À son retour, l'ellipse de ma narration, c'est aussi celle que fait Ali. C'est celle que connaîtront Hamid puis Naïma lorsqu'ils voudront remonter les souvenirs. De la guerre, on ne dira jamais que ces 2 mots, la guerre, pour remplir 2 années. Il y retrouve la misère que sa pension vient alléger.
Extrait 2, Guerre de Libération. Le loup de Tablat commence à ranguer la foule. Nous avons pris le maquis pour nous battre au nom de notre pays. Nous sommes là pour tenir tête à la France, car il est temps pour nous de gagner notre indépendance ou de mourir au combat. Hier, nous n'étions qu'une poignée. Nous marchions en cachette. La France en a profité pour dire sur nous des mensonges et des injures. Elle essaie simplement de vous tromper. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des bandits, nous sommes des moudjahidines, des combattants. C'est la France qui vous vole, c'est la France qui vous tue. De combien d'innocents ont-ils le sang sur les mains? La France nous a poursuivis longtemps. Elle ne nous a jamais trouvés. Aujourd'hui, nous nous montrons. Voyez, nous ne sommes pas dehors la loi. Nous sommes comme vous, des Kabyles, des musulmans, et surtout nous voulons être des hommes libres. Cette montagne, elle est à nous. Cette terre, ici il prend une poignée de sable et de gravats sur le sol et la consistance le fait sourire. Cette terre, elle est dure, elle est maigre, mais elle est à nous. Les oliviers, les sources, les chèvres, les céréales, les vignes de la vallée, le liège, les minerais qu'ils sortent de la terre éventrée à bout médran, est-ce que ce n'est pas à nous aussi? Le village aussi entre l'exaltation et la peur. Exaltation, parce que tous ici pensent en effet que les Français n'ont aucun droit sur ce que le sol de la montagne donne aux Kabyles. Peur du nous, utilisé un peu trop légèrement par cet homme que personne ici n'a jamais vu. Nous sommes un pays riche. La France nous l'a fait oublier parce qu'elle a tout gardé pour elle. Mais quand elle partira, ce sera le paradis. Le temps est venu. Vous n'avez pas à avoir peur. Nous sommes puissants, nous avons des armes et nous ne sommes pas seuls. La Tunisie, le Maroc, l'Égypte vont nous aider. Croyez-moi, la France partira bientôt, qu'elle le veuille ou non. Ce n'est pas une émeute, c'est la révolution.
L'autobiographie fictive permet au lecteur de s'approprier non pas la seule histoire réelle de l'auteur, mais celle imaginaire du narrateur. Et l'on passe ainsi d'un récit intime à un récit collectif, voire national. S'exprimer à la première personne permet de donner une sensation d'intimité, de connivence et de réalité au lecteur. Ainsi, les sujets les plus tabous, comme le rôle du FLN ou la condition de Harki, deviennent plus personnels et donc plus acceptables.
Extrait 3. Se libérer. Tu prélèveras l'impôt. Désormais, vous ne paierez plus le caïd, ce chien vendu aux Français. Nous organiserons dans le village la collecte de l'impôt révolutionnaire. Je vous promets qu'il sera juste, mais qu'il est nécessaire. Si nos hommes ont besoin de se reposer ici avant de remonter au maquis, vous leur fournirez une cachette et de la nourriture. C'est pour vous qu'ils se battent. C'est pour l'Algérie. Vive l'Algérie. Maintenant, dit-il, jurez sur le Coran que nous sommes tous frères, tous unis dans le combat pour notre pays et que vous ne préviendrez personne de notre passage. Et le village entier jure, dans une unité qu'on ne lui connaît pas. Ali, comme l'aîné des Amrouches, Wallis, le guetteur, le jeune Youssef, en criant très fort, le petit Omar, avec une gravité nouvelle. C'est bien, dit le lieutenant. Le Coran, c'est bien. La parole donnée, c'est beau. Mais souvenez-vous aussi de ça. Il fait alors sauter son poignard d'une main à l'autre, non pas dans un geste agressif et brutal, mais avec une nonchalance joueuse. Il sourit de toutes ses dents pour la première fois, et Ali revoit en lui le fauve de tout à l'heure, magnifique et terrible. On ne gaspillera pas de balles pour les traites, conclut-il simplement.
Extrait 4. Ali choisit son camp. Le capitaine demande, le mort, tu le connaissais? Oui, dit Ali. Tu sais pourquoi il est mort? Le nez remue vit sa vie de nez avec une liberté qui a quelque chose d'obscène. Ali le regarde s'agiter et peine à se concentrer sur ce que lui traduit l'interprète. Il a continué à toucher sa pension, répond-il, en s'obligeant à détourner les yeux. Le FLN l'avait interdit. Il est le seul à avoir continué? Non, dit Ali. Nous tous, on a continué. Il se redresse sur la chaise métallique et inconfortable et déclare d'une voix ferme « Cet argent, il est à nous. »« Je suis d'accord, » répond l'officier. « Mais tu sais ce que ça veut dire. Tu peux imaginer qu'ils ne vont pas s'arrêter là. » Ali hausse les épaules. Il voudrait presque qu'ils viennent maintenant. Si seulement ils arrivaient à découvert, ils voudraient pouvoir se battre, leur fracasser le visage de ses poings. « L'armée peut te protéger, » dit le capitaine. « Vous protégez. Toi, l'association, ta famille. C'est pour ça que nous sommes là. »« Qu'est-ce que tu veux en échange ?» demande Ali. « Je suis trop vieux pour m'habiller. » Le capitaine se tait un instant, se balance en arrière sur sa chaise en regardant Ali. « C'est vrai ce qu'il a dit ? demande-t-il en montrant l'interprète d'un signe de tête. « Tu viens des sept crêtes ?» Ali hésite un moment. Il ne les a jamais appelés comme ça. La manie des Français de tout compter le perturbe. D'autant plus qu'on ne peut pas venir des sept crêtes. Il faut bien en choisir une. Il hoche cependant la tête. Le visage du capitaine referme lentement le sourire entreaperçu au début de la conversation. Cette fois, il est énorme. Il prend toute la place, il élargit la mâchoire, remonte les pommettes et plie le nez. L'officier ramène sur le sol les quatre pieds de sa chaise, puis il déclare presque avec tendresse. « Je veux le loup de Tablat. » « Qui ?»« Le lieutenant du FLN qui est là-haut. Je suis sûr que tu l'as déjà rencontré. Et si ça n'est pas le cas, tu connais sûrement quelqu'un dans ton village qui pourra m'en parler. Donne-moi un nom. » La phrase fait sursauter Ali, plus sûrement qu'une gifle ou qu'une insulte. C'est une chose qu'on peut demander aux enfants, aux malheureux, aux brebis galeuses, ceux que la solidarité ne lie pas clairement au groupe. Mais ce n'est pas une chose que l'on demande à un homme, à un chef de famille, à l'un des piliers du village. Il regarde avec mépris l'officier et répond sèchement « Je ne peux pas t'aider. » « Alors moi non plus. » Alors qu'Ali quitte la caserne, l'interprète commente comme déçu. « Vous n'avez pas beaucoup insisté. » L'officier le regarde avec une douceur moqueuse. « Pourquoi insister ? On l'a vu entrer ici. Il a parlé avec moi. Il comprendra bientôt que c'est suffisant pour le compromettre. À ce moment-là, il nous aidera. » La semaine suivante, Ali retourne à la caserne. « Demande aux âmes rouges, dit-il au capitaine. Eux, ils sauront où est ton homme. » Maintenant, il est traître de son vivant. Et il avait raison. Ça ne fait aucune différence.
Comment Ali Zénitaire rend-elle compte du vécu des deuxième et troisième générations d'immigrés ?
Essentiellement à travers les personnages que fréquente Naïma, dire toutes les difficultés d'insertion dans une communauté plutôt hostile majoritairement et qui garde des amertumes et des rancœurs. De ces enfants de travailleurs algériens venus s'installer dans la France de la fin des années 60, et notamment le sœur réservé aux Harkis, rejeté par les deux communautés.
Extrait 5. Premier pas en France. Entre le moment où Ali pose le pied en France, au mois de septembre 1962, et celui auquel Naïma réalise qu'elle ne connaît pas le récit de sa famille, mieux que je ne me rappelle l'Énéide, qu'advient-il ? Une histoire sans héros, peut-être. Une histoire, en tout cas, qui n'a jamais été chantée. Elle commence dans un carré de toile et de barbelés. Le camp Joffre, aussi appelé camp de Rivesaltes, où, après de longs jours d'un voyage sans sommeil, arrivent Ali, Yema et leurs trois enfants, est un enclos plein de fantômes. Ceux des républicains espagnols qui ont fui Franco pour se retrouver parqués ici. Ceux des juifs et des ziganes que Vichy a raflés dans la zone libre. Ceux de quelques prisonniers de guerre d'origines diverses que la dysenterie ou le typhus ont fauchés loin de la ligne de front. C'est, depuis sa création 30 ans plus tôt, un lieu où l'on enferme ceux dont on ne sait que faire en attendant officiellement de trouver une solution, en espérant officieusement pouvoir les oublier jusqu'à ce qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. C'est un lieu pour les hommes qui n'ont pas d'histoire, car aucune des nations qui pourraient leur en offrir ne veut les y intégrer. Ou bien un lieu pour ceux auxquels deux histoires prêtent des statuts contradictoires, comme c'est le cas des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants que l'on accueille à partir de l'été 1962. L'Algérie les appellera des rats, des traîtres, des chiens, des terroristes, des apostats, des bandits, des impurs. La France ne les appellera pas, ou si peu. La France se coule la bouche en entourant de barbelés les camps d'accueil. Peut-être vaut-il mieux qu'on ne les appelle pas. Aucun nom proposé ne peut les désigner. Ils glissent sur eux sans parvenir à en dire quoi que ce soit. Rapatriés, le pays où ils débarquent, beaucoup ne l'ont jamais vu. Comment alors prétendre qu'ils y retournent, qu'ils rentrent à la maison ? Et puis, ce nom ne les différencierait pas des pieds noirs qui exigent qu'on les sépare de cette masse bronzée et crépue. Français musulmans ? C'est nier qu'il existe des athées, et même quelques chrétiens parmi eux. Et ça ne dit rien de leur histoire. Harkis ? Curieusement, c'est le nom qui leur reste, et il est étrange de penser qu'un mot qui, au départ, désigne le mouvement, arca, se fige ici à la mauvaise place et, semble-t-il, pour toujours.
Extrait 6. Bienvenue en France. Ils habitent désormais des logements de bois, de fibrociment et d'amiante, construits 15 ans plus tôt. Ceux qui sont logés le plus près de la route ont droit à des préfabriqués jaunes et blancs, dotés d'un étage, dont l'aspect hésite entre le bungalow de vacances et la cabane à outils. Dedans, ils sont souvent une dizaine. Ali et Yema ont de la chance. Ils vivent avec leurs 3 enfants et l'oncle Messaoud. 6, ce n'est pas tant. Quand même, au matin, ça sent les pets des gamins et la sueur des endormis. Dans les petites maisons trop pleines, avant qu'elles s'aperçoivent que le liquide mange toute la couleur, les femmes récurent chaque centimètre carré à la javel, dont les assistantes sociales leur ont garanti qu'en termes de propreté, c'était le must. Le bois, les mailles, les vitres et le plâtre, tout y passe. Yema et les voisines discutent même de la possibilité de rincer avec le liquide magique les fruits et les légumes. Seule la crainte que la javel ne contienne de l'alcool les en dissuade. Yema veut que son logis minuscule soit impeccable, qu'il soit le plus propre de tous. C'est sa manière à elle de refuser la pauvreté, de remplacer une hiérarchie par une autre, en haut de laquelle elle puisse encore trouver une place. Chez elle, on ne verra aucun mouton de poussière, aucune chiure de mouche, aucun reste de nourriture caché sous un pied de table, aucune dégoulinure sombre sur la surface lisse des meubles en formica. Chaque portion qu'elle astique devient sienne. « Elle va user les murs, » dit Ali à ses voisins. Mais le règlement du hameau, imposé par les autorités françaises comme le programme, la première ligne du document qu'on leur a lu dès leur installation, stipule que la propreté est une des conditions sine qua non de leur séjour. Alors Ali laisse Yema gratter la maison. Le règlement commence ainsi. Les habitants des hameaux forestiers ont largement bénéficié de la sollicitude du gouvernement. Ils bénéficient non seulement des ressources que procure un travail régulier et assuré, mais encore d'un logement gratuit que beaucoup de mal-logés souhaiteraient posséder. Par ailleurs, un personnel qualifié leur distribue les soins nécessaires, facilite leur démarche et leur apporte un appui constant. Ces avantages ont pour contrepartie un certain nombre d'obligations et d'interdictions. Vient ensuite une liste relativement courte que l'on peut résumer de façon plus lapidaire encore. Il leur faut être sains, sobres et dociles. L'inobservation d'une des règles énoncées ci-dessus entraînera l'éviction immédiate du contrevenant. Le logement rendu disponible sera mis à la disposition de notre rapatrié et de sa famille. On a vu plus chaleureux en guise de discours d'accueil. Même le personnel qualifié qui leur donne lecture du texte en a conscience.
Extrait 7. Le fils demande des comptes. Si Hamid veut parler politique dans l'appartement, il ne lui reste que ses parents. Or, Yema l'arrête d'un « laisse-moi tranquille » chaque fois qu'il pose des questions sur sa condition de femme. Une fois, elle lui dit même « c'est dégoûtant. Un fils ne doit pas voir sa mère comme une femme, seulement comme une mère, alors laisse-moi tranquille. » Hamid tourne alors autour d'Ali avec envie et effroi. C'est à lui en vérité qu'il voudrait parler. Il n'a jamais demandé à son père ce que celui-ci avait fait pour que la famille se retrouve obligée de fuir l'Algérie. Il ne s'était pas posé la question lui-même auparavant parce que le choix du père est sacré et que, lorsque celui-ci décide, cela vaut pour son épouse et sa descendante, indépendamment des raisons qui ont motivé sa décision. « Est-ce qu'on t'a forcé ?» demande-t-il. « Forcé à quoi ? À collaborer avec les Français ? Est-ce qu'ils t'ont enrôlé de force ?» Il n'a pas le vocabulaire suffisant en arabe pour mener une conversation politique et il parsème ses questions de français. « Est-on menacé ?» Ali regarde son fils, à qui la langue ancestrale se refuse, devant qui elle se dérobe, son fils qui parle la langue des anciens oppresseurs au moment où il prétend comprendre les opprimés mieux que lui. Cela le ferait peut-être sourire s'il n'était pas aussi directement remis en cause. Pourquoi est-ce que son orgueil a encore la taille de l'Algérie, se demande-t-il, en sentant la colère lui empourprer le visage. Il ne dit rien, serre les poings, jusqu'à ce que ceux-ci forment deux boules de chair et d'os qui concentrent son mal-être et que, désemparés, effrayés par leur crispation involontaire, ils regardent comme des objets dans la pièce, comme une arme sortie du tiroir, et il a peur de ce qui pourrait arriver, parce que, si ses poings se ferment sans son accord, alors, qui sait ce qu'ils peuvent faire ensuite ? Et pour éviter le pire, pour forcer ses poings à obéir à sa volonté et non pas à leur sourde logique de violence, pour tromper la vigilance des poings peut-être, les prendre par surprise d'un vaste geste des bras, d'une double envolée, il balaye les livres de son fils, éparpillés sur la table, en murmurant entre ses dents serrées « Tu ne comprends rien, tu ne comprendras jamais rien ». En réalité, lui non plus n'a rien compris, il le sent. Mais il ne peut pas le reconnaître. Il est plus facile de se fâcher en espérant qu'un jour quelqu'un lise ses colères comme des aveux. Non, Ali ne comprend rien, ni pourquoi on lui a demandé dans un premier temps les marques de son amour sans faille pour la France, faisant de son parcours une ligne idéologique claire, ni pourquoi son fils lui demande à présent de prouver qu'au contraire, il n'a fait que se soumettre à une violente omniprésente et polymorphe. Pourquoi personne ne veut-il lui laisser le droit d'avoir hésité, d'avoir changé d'avis, d'avoir pesé le pour et le contre ? Est-ce que pour les autres tout est si simple ? Est-ce qu'il n'y a que dans sa tête que rien ne vient avec une seule explication ? Pour faire bonne mesure, il envoie aussi balader la toile cirée en la tirant vers lui d'un geste sec.
Justement, quel type de difficultés relate Ali Zeniter ?
Eh bien, celles liées au racisme, bien sûr. Mais aussi la difficulté, malgré la nationalité française, d'être considéré comme appartenant à la communauté nationale. La pratique de la langue, différente selon que l'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur du cercle familial, le cloisonnement culturel, la place de la femme, la pratique des religions et le poids de la laïcité, les discriminations à l'embauche et aux droits en général, comme le logement, l'accès aux lieux de loisirs ou de culture.
Extrait 8, la vie de tous les jours. Début juillet 63, Ali entre dans un bar et s'assied au comptoir. C'est la première fois qu'il vient là. Et l'établissement est plutôt sale. Même la lumière paraît poisseuse. Mais cette crasse sombre lui fait du bien, après l'aveuglant soleil du dehors qui lui a cassé la tête tout le temps qu'a duré la marche. « Une bière », dit-il au patron. C'est ce que lui pense dire, du moins. Mais aux oreilles du patron, ça sonne comme « une bière ». Et ça l'irrite. La blessure faite au mot lui déplaît, comme si elle s'accomplissait à même son oreille en charcutant les conduits. Il hausse nerveusement les épaules et ne répond pas. « Une bière !» répète Ali sans hausser la voix. Ses yeux déjà peinés achèvent de mettre hors de lui le tenancier. Des yeux de victime qui l'obligent à devenir bourreau avant même qu'il ait fait quoi que ce soit le prive de sa liberté d'agir. Des yeux qui ont l'air d'avoir accumulé toute la souffrance du monde. Et puis ces putains de médailles sur sa poitrine. Il n'arrive pas à y croire, le type a mis sa parure d'ancien combattant. C'est sa défense contre les Français, son mot d'excuse rédigé par la mère République. « Je ne sers pas les crouilles. » La phrase s'échappe entre ses dents. Jusqu'à la dernière seconde, il ne savait pas qu'il allait la dire. Mais maintenant qu'elle est sortie, il ne peut plus la rattraper. Alors au contraire, il s'entête, il la répète plus fort. « Tu m'as compris, je ne sers pas les crouilles !» Au village, Ali l'aurait frappé et on lui aurait donné raison. Ici, il sent ses deux maîtres qui se recroquevillent sur le tabouret, sa force qui se dérobe, le sang qui se change en eau, et les jambes comme des collants de nylon sur un fil à linge qui ne sont plus qu'une vague forme de jambes, inutiles et grotesques. « Très bien, murmure-t-il, pas de bière. Je vais juste me reposer un peu. »« Tu es demeuré ou quoi ? Tu sors tout de suite. »« Non, non, » dit Ali tout doucement, « je ne sors pas. »« J'y sors pas !» hurle l'autre derrière le comptoir, son visage devenu rouge brique. « Mais tu t'es cru où ? Tu t'es cru chez toi ? Sale bougnoule, j'appelle la police !» Alors qu'il fait les quelques pas qui le séparent du téléphone, il prie intérieurement pour qu'Ali soit raisonnable et qu'il sorte ou au moins qu'il esquisse un geste vers la sortie. Il ne veut pas avoir à décrocher le téléphone, il ne veut pas avoir à justifier sa fureur à une tierce personne. C'est déjà assez difficile de se persuader lui-même qu'il a raison. Mais Ali ne bouge pas. Son grand corps de crouille courbé sur le tabouret, il ne touche pas le comptoir, il a retiré ses mains. Il ne veut pas être en tort ni provoqué. Il veut simplement qu'on ne le mette pas à la porte. Il est persuadé que c'est son droit. Il attend le policier municipal, muré dans un silence qu'il espère digne. Et le tenancier de l'autre côté du comptoir fait pareil. Une fois qu'on lui a expliqué la situation, le policier renifle et se gratte le long de l'arête du nez. Puis il se place face à Ali, toujours immobile sur son tabouret. Ali qui essaie de sourire pour montrer sa bienveillance, mais l'agent ne remarque pas le sourire, il baisse les yeux. Est-ce qu'il veut éviter le regard d'Ali? Est-ce qu'il a honte? Est-ce qu'il s'apprête à le frapper? Ali regrette d'être resté. Et puis le policier relève la tête et lance. Il a 7 kilos de ferraille sur la poitrine. Et toi, tu ne lui sers pas à boire? Ça vient d'où? Demande-t-il en montrant l'une des décorations. Monte Cassino, répond Ali dans un murmure. Il n'a pas prononcé ce nom depuis près de 20 ans. Il croyait qu'il ne dirait plus jamais. Et soudain, le flic tape du poing sur le comptoir, très fort. « Maintenant » crie-t-il à l'adresse du patron qui n'a pas pu retenir un sursaut. « Tu nous donnes 2 bières, maintenant !» Puis se tournant vers Ali, « J'y étais aussi. » Le policier et lui boivent leur bière en souriant, émus au point de sentir qu'ils pourraient pleurer. Mais quand ils quittent le bar, Ali croise le regard haineux du patron et il sait qu'il ne reviendra jamais.
Extrait 9, faire semblant. Mohand dit: tu sais, parfois, je ne suis pas sûr à quoi ça a servi tout ça. L'indépendance, d'accord. Mais quand tu vois le village aujourd'hui, tu te dis qu'on est toujours mangé par la France. Complètement. Les jeunes, ils n'essaient même pas de trouver du travail au pays. Ils demandent les papiers et ils partent pour la France. Après, quand ils reviennent, ils font les malins. Ils sortent de l'argent, en veux-tu, en voilà. Ils font semblant d'avoir oublié comment ça marche au village et ils n'ont que la France à la bouche. Tu pourrais croire que là-bas, ils sont les rois. Mais je suis allé chez mon neveu à Lyon. Il m'avait dit l'été dernier qu'il m'accueille quand je viens, sans problème. Mais quand j'arrive à Lyon, il ne répond pas au téléphone. Il fait semblant d'être disparu. Moi, comme je sais où il travaille, je vais le trouver. Il est tout gêné, il me dit « Mon oncle, quelle surprise !» Et il commence à m'expliquer que ce n'est pas un bon moment pour lui, que sa situation n'est pas facile. Bon, il ne va pas me laisser dans la rue comme un chien. Alors, il m'emmène dans l'appartement. Quand il ouvre la porte, c'est la nuit là-dedans. Ils sont 4 hommes du village qui vivent ensemble dans une toute petite chambre. C'est ça la France. Je partage le matelas avec lui. Il me dit « Tu viens pour les francs, bon, je vais te les trouver. » Mais je sais bien qu'il ne peut pas. Il n'a pas un seul grain dans sa poche. Même pour aller au café, il emprunte à ses voisins. Et quand je pars, il me dit « Mon oncle, c'est mieux de ne pas en parler. » Je ne demande même pas de quoi. Je sais ce qu'il veut dire, parce que l'été prochain, quand il rentrera, il continuera à faire le malin, il creusera un peu plus le sillon de la France dans le cœur des jeunes qui voudront partir aussi. C'est ça qu'il est, le village, une caisse de résonance pour les mensonges que ramènent les immigrés. Il est suspendu à leur bouche qui ne donne que des fausses paroles. Peut-être que tu as de la chance, finalement. Tu ne peux pas l'entendre, d'accord. Mais au moins, toi, tu n'as pas à mentir à personne puisque tu ne reviens pas. Et puis, tu as ta famille. Nous, au village, on voit les femmes et les enfants qui n'ont pas le mari, pas le père. Ce sont comme des veuves et des fils de veuves, alors que l'homme est encore vivant, mais il travaille de l'autre côté de la mer. L'Algérie compte ses absents en permanence. Sais-tu qu'en 1966, ils ont fait le recensement? Ils ont mis les absents dedans aussi. La prochaine fois, ils feront quoi? Les morts? Quand l'addition arrive, Ali insiste pour payer.
Extrait 10. Le pays rêvé. Tu voudrais y retourner, Yema? Demande soudain Naïma. Est-ce que tu voudrais que je t'emmène avec moi si j'y retourne? Oh, Benti, Benti, murmure tristement Yema. Moi, je voudrais mourir là-bas, c'est sûr. Mais aller comme ça, pour les vacances, je connais plus personne. Et elle marmonne quelque chose que Naïma ne comprend pas. Fatia traduit. Elle dit: je ne vais pas rentrer chez moi et aller dormir à l'hôtel.
En quoi alors le parcours personnel d'Ali Zeniter est-il symbolique de cette histoire franco-algérienne?
Parce qu'elle est l'archétype de cette génération. Elle est née en 1986 avec la mare d'un père algérien et d'une mère française. Elle suit un parcours scolaire exemplaire, école normale supérieure, puis chargée d'enseignement à l'Université de la Sorbonne. Enfin, elle est titulaire de la chaire d'écrivain à l'IEP de Paris. Elle est écrivaine très tôt, en publiant à l'âge de 16 ans son premier roman, 2-1=0.
Et toute l'œuvre littéraire d'Alice Zénitaire est-elle imprégnée de cette histoire personnelle ?
Oui, mais pas seulement de son histoire franco-algérienne. Ainsi, par exemple, Sombre Dimanche se déroule en Hongrie, où elle a longtemps séjourné en tant que prof de français. Elle est aussi impliquée dans le théâtre. Elle crée notamment sa propre compagnie et passionnée de l'histoire de l'Antiquité, ce qui correspond à ses études de lettres. Elle est aussi fortement engagée dans les combats féministes.
Elle a publié 8 romans, mais aussi 5 pièces de théâtre, 2 essais, un roman pour la jeunesse, un recueil de nouvelles et aussi 3 traductions de l'allemand et de l'anglais. Et quelle est aujourd'hui l'actualité littéraire d'Alice Zénitaire ?
Son dernier livre est paru chez Flammarion cet été, en août 2022, et s'appelle « Toute une moitié du monde ». Il s'agit d'une réflexion sur la lecture et sur le rôle de la fiction.